les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette librairie francophone très spéciale aujourd'hui. Une fois par mois, nous organiserons des rencontres entre auteurs et artistes avec un thème et une séquence acoustique. Première édition de cette saison autour du voyage. Nous allons donc voyager une fois de plus avec le célèbre chanteur francophone Dick Annegarn. Il est né et a grandi entre les Pays-Bas, la Belgique et la France, mais il a aussi beaucoup voyagé. Pour preuve, son nouvel album 12 villes qui raconte le monde. Il a invité l'écrivain voyageur Julien Blanc-Gras, auteur de Touristes et plus récemment d'un récit sur le Qatar. Nous allons échanger avec eux sur la nécessité du voyage. Une autre rencontre aujourd'hui avec deux grandes personnalités engagées pour la liberté d'expression et notamment pour le dessin de presse. Bonjour Plantu.
Bonjour.
Comment allez-vous, cher Anne?
Finalement, ça va.
Ça va. Bonjour Maryse Wolinski.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les deux. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Nous parlerons ensemble d'un petit livre sur le sexe dans les dessins de presse. Dessiner le sexe, c'est encore compliqué. Et quand on l'associe à la religion, alors là, ça devient carrément dangereux.
Tout à fait. Ça dépend des pays, bien sûr. Mais enfin, je pense que certains dessins qui passaient, par exemple des dessins à Harakiri, qui passait dans les années 70, ne passerait pas aujourd'hui.
Ouais.
Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean, mais...
Alors, moi, je suis encore sous le choc d'avoir pu passer dans le monde un dessin avec un prêtre qui tient par la main un enfant. Et le prêtre, il dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. Et l'enfant, il dit, il y a bien qu'elle. Et finalement, il l'a mis dans ce
c'est
bouquin
dans le livre.
Sur le sexe.
Oui, c'est dans le livre.
Et je n'en reviens encore pas qu'il soit passé à la une du monde.
Bon, on va parler de ce sujet brûlant, très sexuel, et parfois sensuel d'ailleurs, chaud. Avec vous, Maryse Wolinski et Jean Plantu. Nous parlerons ensemble de ce livre, donc, réalisé au profit de l'association Cartooning for Peace, créé avec le regretté Kofi Annan pour soutenir les dessinateurs de presse menacés. Nous le ferons évidemment sans tabou. Et puis, il sera question d'un premier roman avec la Marocaine Meriem Alaoui qui publie un récit remarqué qui vous emmènera sur les trottoirs de Casablanca.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont bien sûr comme chaque semaine en multiplex avec nous. Au Canada, c'est Josiane Letourneau de la librairie du Square qui est avec nous à Montréal. Bonjour Josiane.
Bonjour.
Comment se passent ces premiers jours d'automne au Québec?
Ah, on s'y habitue en fait, j'ai mis mon bonnet.
Déjà voilà. Ah oui, quand même.
Oui.
Bon. Bonjour Déborah Damblon, sans bonnet.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Bruxelles dans la librairie La Licorne et vous représentez la Belgique. Thomas Auxerre, élu libraire en France, a plutôt dans la librairie L'Amandier, à proximité de la Défense à Paris. Bonjour Thomas.
Bonjour Emmanuel.
Paris qui se rafraîchit ou ça va encore pour vous?
Ça se rafraîchit mais il fait très beau encore.
Très bien. Bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en Suisse dans la librairie Une Petite Prose à Boudry. Dominique est son petit pull de saison à la campagne car vous êtes à 500 mètres d'altitude quand même à Boudry.
Oui, 440.
Oui, c'est ça. Au pied du Jura et ça monte jusqu'à 1370 mètres. Merci d'être avec nous tous les quatre. Bonjour Dick Annegarn.
Bonjour.
Nous parlerons de votre nouvel album qui raconte 12 villes. Vous avez choisi d'échanger avec l'écrivain voyageur Julien Blanc-Gras qui est donc en plateau avec nous. Vous en avez rêvé, la librairie francophone l'a fait. On commence par une histoire, une anecdote personnelle étonnante, Dick Annegarn, ça tombe sur vous là.
Ah, lettrée Radio France, c'est Mireille du Petit Conservatoire de la Chanson.
Oui.
Qui en fait, ça faisait comme 10 ans qu'elle le faisait plus et que moi j'étais grand parce que je suis arrivé physiquement grand mais chansonnièrement petit parce que je chantais même pas en français quand je suis arrivé chez elle. Mmh. Et elle m'a pris un peu articulé pour dire qu'elle a fait du boulot quand même. Elle m'a mis un crayon dans la bouche pour que j'articule autour. Donc j'ai fini par être un peu moins patate dans le son. Et, mais bon, 10 ans après, donc avoir quitté, elle a fêté, je ne m'en rappelle plus, les 25 ans. Elle était assez coquine quand même, elle avait des bottes du maréchal Pétain, bon, des yeux magnifiques. Elle était
et donc venez-en en fait.
Ah ben c'est qu'elle m'a encore séduit à 84 ans, il faut varier les plaisirs. Elle me confie les clés de sa loge après m'avoir embrassé sur les lunettes et elle me dit suivez-moi dans bon et donc
vous imitez très bien Mireille. Hein.
Je l'ai suivi. Et donc et puis elle m'a donc confié les clés et puis elle dit rendez-moi mes clés. Bon, je lui rends ses clés, elle dit maintenant allez-vous-en. Voilà. Donc elle, c'était typiquement elle, elle s'est va-t'en, revient, voilà. Mm. Donc voilà, Mireille, c'est juste un petit moment de trouble, on va dire.
C'est un bon souvenir quand même, ou pas?
C'était toujours mélangé, mélancolique. Oui, elle était très double, on va dire. Elle était gentille et méchante en même temps.
Vous êtes double, vous, Dick, ou pas?
Un peu.
Bien, Dick Annegarn est dans la librairie francophone cette semaine. Plantu et Maryse Wolinski sont aussi dans cette librairie qui foisonne aujourd'hui pour Le Sexe à la Une, paru chez Gallimard. 60 dessins de presse préfacés par Maryse Wolinski. Il y a deux voix qui vont nous accompagner aujourd'hui, Maryse et Plantu. La première vous est proche, Plantu. Écoutez.
Cartooning for Peace Prize. Le prix Cartooning for Peace récompense ceux qui ont engagé leur voix et leur talent artistique pour la cause de la paix et de la tolérance. Ils utilisent le langage universel, des images pour informer, pour éduquer, pour célébrer notre humanité commune.
Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies pendant 10 ans, décédé cet été le 18 août à l'âge de 80 ans. C'est avec lui que vous avez fondé Cartooning for Peace, Plantu.
Et je suis allé au Ghana la semaine dernière pour l'enterrement à Accra, dans la capitale du Ghana, et c'était très émouvant et on ne sait plus comment faire parce qu'il était le président d'honneur de notre association, Cartooning for Peace, et il nous a aidés à réunir, il y a 12 ans, des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans à New York, et c'était le début d'une belle aventure que je porte sur mes petites épaules, et sans lui, on se sent un petit peu seul.
Ouais.
Parce qu'en plus, il avait une aura incroyable, et partout, il était très spontané.
Bon, le sexe à la une a causé de nombreux problèmes à bien trop de dessinateurs, ceux de Charlie Hebdo, bien sûr, mais aussi plein d'autres dans le monde. C'est quoi le problème avec le sexe dessiné?
C'est le problème des tabous, c'est-à-dire, moi je préfère que Maryse, qui connaît mieux, du fait que Maryse a fait la préface du livre, je crois que ta vision, Maryse, est plus intéressante dans la mesure où tu l'as vécu de l'intérieur avec Georges, et que tu as accompagné ce bouquin dont tu fais la préface.
En fait, pour mon mari, ça posait beaucoup de problèmes. Il faisait de nombreux dessins de sexe. En vrai, même pour des journaux comme le Journal du Dimanche, il introduisait toujours. J'avais beau lui dire, est-ce que tu pourrais... Bon, mais non, ça ne marchait pas du tout.
Ah, vous interveniez quand même.
Ah bah oui,
ah, oui.
J'essayais.
J'essayais.
Je faisais des tentatives, mais 47 ans de tentatives, je n'arrivais à rien du tout. Bref.
Donc lui, il n'avait pas de problème, en fait, pas tant que ça.
Non. On laissait passer ses dessins. Bon, il faut dire qu'il avait une certaine notoriété, que voilà, il y avait ça aussi, quoi. Mais je sais qu'autour de lui, il y a des dessinateurs qui ne pouvaient, il y a certains dessins qui ne pouvaient plus passer.
Et dans le livre, Maryse Wolinski, vous dites, là où la sexualité est la plus taboue, règne la violence et l'instabilité politique. La frustration sexuelle génère des effets délétères sur la société.
Tout à fait. Par exemple, en Inde, ou une femme qui a trompé son mari, ou une jeune femme qui a eu des relations sexuelles avant d'être mariée, sera brûlée. On le sait, ça se passe encore aujourd'hui. Bon. Ben dans ces pays-là, il y a quand même de l'instabilité politique. Quelque chose qui fait que, quand il n'y a pas d'ouverture, il y a de l'instabilité politique.
Ouais. Alors du coup, vous expliquez aussi dans la préface que le sexe est devenu un commerce mondial, incroyable. Et ça a tout changé quelque part.
Bien sûr. Ça, c'est à l'orée des années 2000, en fait. Bon, on sait, avant 68, on pense à la fécondité. Mmh. Après 68, la grande libération sexuelle, c'est ce que j'ai vécu, moi. Et puis ensuite, après les années 80,
les années sida.
Mmh. Donc là, ça pose problème. Donc c'est une sexualité, on pourrait dire, contrainte. Et puis alors ensuite, c'est le grand déballage dans les années 2000 avec le net, qui ouvre à la porno.
2,4 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires annuel.
Oui, absolument, les chiffres sont absolument énormes.
La toile compte 4 millions de sites consacrés au X et 63% des adolescents sont déjà addicts au porno. Et tout cela, vous dites que ça génère frustration, voire même perte de libido et de désir.
Du désir,
parce qu'il y a la course à la performance
et
au physique.
Alors ça, ce sont les psys, naturellement, qui recueillent ces témoignages de la part de leurs jeunes patients. Pourquoi? Simplement parce que soit en groupe, soit seul, ces jeunes regardent les vidéos porno. Il y en a, alors vous voyez, je dis dans le livre, toutes les 39 minutes, une nouvelle vidéo est mise en ligne. Mmh. Vachement important. Et alors, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des sexes surdimensionnés, Il voit des femmes offertes, des jeunes femmes offertes et soumises, avec beaucoup d'accessoires. Bon, ils veulent faire la même chose, sauf qu'il y a un décalage, absolument.
Mais ils n'y arrivent pas. Enfin,
voilà,
pas comme dans les films, quoi.
Entre ce qu'il voit et le réel.
Ouais, ouais. On a oublié l'érotisme, c'est ce que vous expliquez. L'érotisme que dessinait très bien Georges Wolinski.
Oui, tout à fait.
Ben oui. En tout cas, il y a comme ça cette confusion. Alors, les dessins le montrent très bien parce qu'il y a eu l'affaire MeToo, Weinstein et tout ça. Bon, voilà, tout ça est évidemment représenté, plantu, parce que le dessin de presse, ben, colle à l'actualité. Donc, forcément, quand les magazines, et Maryse le dit, les magazines ont un rôle à jouer aussi.
Ah bah
parce
oui.
que, voilà, ils en font des tonnes aussi. Les dessinateurs suivent.
Bien sûr. Mais oui. Bah, on fait avec ce qu'il y a. Et, alors, faut dire que l'affaire Weinstein a été assez bien médiatisée. Et puis, on a rassemblé dans ce livre des dessinateurs de 58 pays. Mmh. Donc, c'est le sexe vu, présenté par Maryse, mais à la fois vu par des dessinateurs de tous les endroits des quatre coins du monde.
Comme le Canadien Côté, par exemple, dans ce livre qui met en scène un couple accoudé au bar. L'homme dit « Je ne sais plus comment parler aux femmes ». Et elle répond « La meilleure façon de parler aux femmes, c'est de les écouter ».
Il y a de la poésie. Je salue nos amis canadiens parce que André-Philippe Côté, il travaille au journal Le Soleil à Québec et c'est un immense dessinateur. Il est très drôle.
Ouais, c'est vrai.
Et on a dedans des dessins un peu pédago, lyriques et souvent très drôles, dont celui de Cécile Bertrand, où il y a une fille qui est en train de se faire sauter par quelqu'un dans son lit, et elle regarde le plafond, elle dit « Ah, le plafond aussi, il a besoin d'un bon petit coup. » Et je trouve ça mignon.
Oui, c'est vrai. Bon, il y en a un qui n'a jamais hésité à faire parler les femmes et à dessiner le sexe comme il l'entendait. C'est l'autre voix qui nous accompagne pour cette émission. C'est Georges Wolinski. Et c'était dans la librairie francophone en juin 2012. Écoutez.
J'ai commencé à dessiner des femmes quand j'avais 20 ans, plus de 20 ans, et même à les déshabiller. Sauf que je ne savais pas très bien ce qu'elles avaient dans la culotte, parce qu'à cette époque, je n'étais pas très informé.
Oui, il faut être informé, oui.
Non, mais il n'y avait pas de film porno, il n'y avait pas...
Il faut de l'expérience, Georges, tout simplement.
Il y avait quelques films où on voyait les seins des femmes, mais la première fille avec qui j'ai fait l'amour s'en est aperçue, parce qu'elle m'a dit, mais tu ne bouges pas, je ne savais pas qu'il fallait bouger.
Ah oui, quand même, oui.
Ah oui, bah
ah oui, quand même.
J'étais au niveau zéro.
Hein. Oui, je vois. Grand fidèle de la librairie francophone, Georges Wolinski, avec Cabu, à qui on dédie cette émission. Je le dis maintenant parce que je ne veux pas oublier, et c'est vraiment très important de les associer dès qu'on peut.
Et mon éducation sexuelle, ce sont, je l'avais dit à Georges, ce sont les dessins de Wolinski.
C'est vrai.
Ouais, je ne connaissais rien. Et je me disais, tiens, ils dessinent ça comme ça, les filles, tout ça. Et ça m'a servi. Moi, j'étais adolescent et je commençais à peine.
Au passage, lui aussi, il a fait mon éducation sexuelle parce que quand je l'ai connu, j'étais très jeune.
Oui, je sais. Donc, vous le racontez dans le livre en préface. Voilà. Je voulais pas évoquer le sujet, mais puisque vous en parlez, c'était chaud
parce
d'ailleurs.
Que c'est ma façon de travailler. Toujours. Je me raconte et après.
Oui, il y a beaucoup d'émotions dans ce que écrit Maryse.
Et de tendresse.
Et de tendresse parce qu'elle raconte une intimité, parce qu'on touche quand même à des. C'est le sexe quand même. Et à la fois, elle se livre et à la fois, il y a beaucoup de pudeur.
On va voir du côté de nos libraires qui ont lu ce livre. Il y en a trois qui ont lu ce petit livre très sexuel, Maryse Wolinski et Plantu. Le Canada, la Suisse et la Belgique. On commence par qui ?
On vous écoute. Hein. C'est celui qui a envie de réagir, il a envie de réagir.
Bah tiens, qui parle en premier ? On n'a jamais fait ça.
Et moi.
Déborah Damblon, je vous entends.
Oui,
en Belgique,
voilà.
Allons-y.
Eh ben moi, qu'est-ce que je peux vous dire à part bravo. Ben bravo de publier des ouvrages courageux comme celui-ci. Bravo de nous faire réfléchir, de nous faire penser à ce qui se cache parfois sous le vernis un peu trop lisse des informations. D'utiliser l'humour comme le catalyseur qui nous permet d'aborder les sujets qu'on éviterait peut-être. Et puis bravo de choisir une thématique qui attire, qui attise, mais qui recouvre au fond tant de choses. Et bravo de nous montrer que résister, c'est possible. Chacune à sa façon et chacun à son niveau.
Tous les dessinateurs, je leur raconterai ce que vous venez de dire à l'antenne. Merci
On
beaucoup.
Va aller en Suisse avec Dominique Bressoux qui veut intervenir. Dominique.
Alors moi, je trouve qu'on frôle de temps en temps une légère indigestion, parce que le sujet du sexe est abordé avec plus ou moins de bonheur un peu partout dans les journaux ou différentes émissions, ce que vous disiez, entraînant presque une pression. Mais là, on est devant un livre que j'ai trouvé extrêmement intelligent et qui en plus fait rire à chaque page. Il n'y a absolument rien acheté et c'est un vrai régal.
Le Canada, merci beaucoup, on va voir si vous beaucoup. Faites l'unanimité.
Et la couverture, c'est un dessin de Selçuk Demirel. On voit le sexe d'une femme et en fait, c'est des petits bonshommes qui s'approchent. En fait, quand on ne voit pas bien, on ne voit pas les petits bonshommes. Et en fait, c'est des petits bonshommes qui s'approchent du sexe d'une femme.
La toison,
et c'est un dessin d'un dessinateur turc.
Le sexe. Bien. Où est-ce qu'on en était? Je ne sais plus. Perturbé. Le Canada. Josiane Letourneau, allons-y.
Il m'a bien fait réfléchir, ce livre est bien interpellé. J'ai trouvé ça intéressant d'avoir ce panorama d'artistes qui nous offrent à leur manière et avec leur humour unique une vision internationale du sujet. Et j'aimerais remercier Marie Zwolinski parce qu'elle réussit à travers tous ces constats parfois sérieux et troublants à nous rappeler la beauté et la nécessité du désir.
Bon, Plantu, il y a des pays où on ne peut pas dessiner la sexualité, carrément, où la censure empêche même le simple fait de proposer un dessin à un journal.
Mais il n'y a pas très longtemps, il y a des endroits où, évidemment, je pense à mes copains du monde arabe, où c'est pas simple, hein, vraiment, c'est souvent le tabou des tabous. Mais à la fois, il n'y a pas très longtemps, j'ai un des rédacteurs en chef qui m'a dit « Mais c'est quoi que tu dessines dans le fronton de l'Assemblée nationale ?» Ben, je dis, je dessine toujours une petite Marianne en train de se faire sauter. Elle me dit, non, tu fais pas ça. Puis j'ai dit, tu rigoles, ça fait 30 ans que je fais ça. Ah. Et en fait, il l'avait pas vu. Oh. Et je trouve ça mignon, parce que moi, je le fais en arrière-plan,
comme ça. Oui. Comme la petite souris, d'ailleurs. Ouais.
Voilà, on la voit plus. Mais là, la petite Marianne qui se fait sauter, il l'avait pas vu. Et du coup, je l'ai balancé. Ben, vous allez voir. Alors, c'est un vrai régal. Mais dans mes dessins, il y a toujours des petites portes qui s'ouvrent. Et j'adore. J'adore me faire plaisir et c'est mon petit côté régal, le petit cadeau. Il y a des lectrices et des lecteurs qui le voient et qui me font des petits commentaires.
On va terminer avec ce dessin du Belge Kroll dans le livre qui illustre les religions monothéistes qui s'opposent toutes au mariage homosexuel. On voit trois représentants qui défilent dans Paris avec des pancartes où il est inscrit « Non au mariage gay » et une autre pancarte où il est marqué « Et au gay » tout simplement, tant qu'à faire. Et un passant dit « S'il pouvait s'entendre aussi facilement à tous les points de vue ».
Exactement. Voilà. Kroll, c'est un immense dessinateur belge et on travaille beaucoup avec la Belgique, on va beaucoup à Molenbeek. On travaille avec les Canadiens, on travaille avec les Suisses, qui était le lieu où on se retrouvait avec Kofi Annan et avec Chapat, dont on voit les dessins.
Et Mix et Remix, qui est décédé, qu'on regrette, immense.
Et qu'on retrouve dans toutes les pages. Et j'en profite pour vous dire que si vous aimez le livre sur le sexe, il y a un livre sur les inégalités dans la balance, toujours chez Gallimard, préfacé par Thomas Piketty, et un livre sur les droits de l'homme, préfacé par Christiane Taubira, que nous retrouverons bientôt au rendez-vous de l'histoire à Blois le 14 octobre.
C'est bien, vous faites mon boulot parce que j'allais dire tout ça. C'est nickel. Merci beaucoup Marie Zwolinski. Merci Plantu. Merci. Le sexe à la une est paru aux éditions Gallimard. Il y a donc toute une collection, vous l'avez entendu. C'est absolument génial. Et en plus, c'est pas cher. Achetez ces livres, vous ferez une bonne action puisque les droits d'auteur sont réservés en soutien aux dessinateurs de presse menacés. Merci à tous les deux. Vous restez bien sûr avec nous. On a une petite surprise avec Marie tout à l'heure. À suivre, Dick Annegarn qui rencontre l'écrivain voyageur Julien Blanc-Gras et qui vous présente son nouvel album plein de voyages dans 12 villes du monde. Et voici un extrait en direct dans notre studio. Dick Annegarn chante les Tchèques. Il est installé derrière moi, je regarde, oui, avec sa guitare noire ou bleue. Elle est bleue ou noire, Dick?
Bleu très foncé.
Bleu très foncé, voilà. Il chante les Tchèques dans la librairie francophone. Dick Annegarn.
Pensent les Tchèques quand ils pensent à quelque chose? Pensent-ils comme des Tchèques? Pensent-ils rouge ou pensent-ils rose? Ou pensent-ils leur plaît? Jolie dame dans le tram, joli parapluie. Êtes-vous déjà une madame ou bien une petite fille? À quoi pensent les Tchèques quand ils pensent à quelque chose? Pensent-ils comme des Tchèques? Pense-t-il rouge ou pense-t-il rose ou pense-t-il leur plaît? Vieux monsieur aux yeux si bleus, vieil imperméable, est-ce que Prague est à vos voeux ou bien insupportable? À quoi pensent les Tchèques quand ils pensent à quelque chose? Pensent-ils comme des Tchèques? Pense-t-il rouge ou pense-t-il rose ou pense-t-il leur plaît? Jeune garçon aux yeux si clairs, vas-tu à l'école? vas-tu voir ton grand-père ou bois-tu son alcool? Da 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 da. Svoboda. À quoi pensent les Tchèques quand ils pensent à quelque chose? Pensent-ils comme des Tchèques? Pensent-ils rouge ou pensent-ils rose? Ou pensent-ils leur plaie? Tendre mère avec sa fille, petit sac à dos. Êtes-vous parti pour la vie ou seulement pour Brno? À quoi pensent les Tchèques quand ils pensent à quelque chose? Pensent-ils comme des Tchèques? Pensent-ils rouge ou pensent-ils rose? Ou pensent-ils leur plaie? Ou pensent-ils leur plaie? Ou pensent-ils leur plaie?
Dick Hanegaard, les Tchèques en version acoustique dans le studio de la librairie francophone sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et sur France Inter. Merci Dick. Revenez avec nous autour du plateau le temps de ce petit jingle, cette virgule, comme on dit en français.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Merci Dick Hanegaard. Magnifique chanson, les Tchèques.
Plantu, il m'a vu là-bas, mais moi, j'ai pas vu Plantu.
Ah bah oui.
Il vous a vu où?
C'était à Prague. On était avec Olivier Parvodarvor, qui dirigeait l'Institut français.
Oui.
Et j'avais eu la chance de voir Dick Hanegaard et de l'écouter. Et c'était un très joli moment. J'aime beaucoup votre voix et ça se voit pas à la radio, mais il a une manière de jouer de la guitare qui est une merveille.
Ouais. Grande dextérité.
Ah, il y avait un guitariste sur cette espèce de pont là. Je me rappelle plus du nom du pont, mais c'est vrai que c'est une source d'inspiration. Maintenant, la Tchécoslovaquie, ça n'existe plus. Et même cette espèce de musique que je fais est une erreur un peu culturelle. On appelle ça de la musique tzigane, mais c'est une musique tzigane quand même pour touristes bavarois. Je veux dire, les Roms eux-mêmes, ils font une musique beaucoup plus lente, plus plaintive. Oui.
Bon, vous avez choisi de rencontrer non pas Plantu dans cette émission, mais Julien Blangras, qui est juste à côté de vous. Bonjour Julien.
Bonjour.
On vous connaît bien, vous êtes l'auteur de livres qui font voyager le lecteur depuis Comment devenir un dieu vivant, révélation de la librairie francophone en 2009. Il y a eu Touriste, Paradis ou encore le dernier Dans le désert, qui nous emmène au Qatar notamment. Voyager par la musique, ça vous arrive aussi ou pas?
Évidemment, et la musique fait...
Là, vous pouvez pas dire le contraire.
Non, je n'écoute jamais de musique. Non, la musique fait partie du voyage, c'est aussi comme ça qu'on comprend un pays. Et puis, quand on ne peut pas se déplacer physiquement, la musique, évidemment, permet de voyager.
Du coup, il nous fait voyager, hein, Dick Hanegaard, avec ses 12 villes, qui reprennent comme ça certaines des chansons réenregistrées à Sofia. Alors, vous êtes parti pour ce dernier livre au Qatar, notamment à Dubaï. Vous avez essayé aussi les Émirats Arabes Unis.
Oui, et à Oman également.
Voilà.
Un petit tour
Est-ce qu'il y a des parties piétonnes dans ces villes-là?
Alors, à Doha, la capitale du Qatar, ou à Dubaï, il n'y en a pas. À Dubaï, il y a un quartier un peu ancien, mais ce n'est pas vraiment des médinas comme on peut encore en voir dans le Maghreb, par exemple. Non, c'est des pays qui sont assez neufs physiquement. À Doha, il y a 20 ans, il y avait une petite ville, mais qui n'était pas grand-chose. Et aujourd'hui, c'est Manhattan, et vraiment des gratte-ciels qui se dressent au milieu du désert. Et c'est pour ça, en partie, que j'ai voulu aller là-bas, pour comprendre comment un pays passe de pas grand-chose au surdéveloppement.
Et pour rencontrer l'autre.
Mais c'est pour ça qu'on voyage, entre autres. Ça permet de rester optimiste, je trouve, parce que quand on regarde l'autre via les médias, il fait toujours un peu peur, il est toujours un peu méchant. Quand on parle des choses qui se passent dans d'autres pays, c'est toujours des mauvaises nouvelles. Quand on voyage, quand on va quelque part, on se rend compte que les gens finalement sont des êtres humains et qui sont très fréquentables. Et donc ça rend optimiste même au Qatar d'ailleurs.
Ouais, Dick Hanegaard, c'est ce que vous avez fait, vous voyagez comme ça dans les villes du monde. Alors il faut savoir déjà que vous êtes né à La Haye, vous avez grandi à Bruxelles, vécu à Londres un peu, à Paris, à Lille, que vous adorez, et puis dans le sud-ouest de la France, à côté de Toulouse, où vous avez des terres agricoles. Et à chaque fois, vous êtes comme ça à la rencontre de l'autre quand vous allez dans une ville et vous écrivez une chanson?
Ouais, j'essaie de traverser ou le chemin, ou je veux dire, il y a une tradition orale qui est quand même assez puissante dans les rues. Je veux dire, bonjour, ça s'évacue pas en 3 secondes, quoi. Je veux dire, on s'assied, d'ailleurs, dans les pays arabes, on
demande des nouvelles de la famille, de la santé.
Voilà, on a toute la liste des Mohamed et je veux dire, on passe en revue, en effet, tout ce qu'on peut connaître ensemble et on se tient la main. On se tient la main, l'homosexualité est interdite. Alors qu'est-ce qui se touche? Je veux dire, c'est très physique quand même.
C'est très tactile.
La rencontre est très tactile, sans être sexuelle.
Dans certains pays, oui, il y a des garçons qui se tiennent la main dans la rue.
En Thaïlande,
c'est autre chose, Dick.
Au Qatar, pour se saluer, les hommes se cognent le nez 2 fois. Donc la première fois, j'étais très surpris. Je me suis dit, tiens, on dirait qu'ils vont s'embrasser, ce qui me semble un peu tabou ici, mais non, en fait, ils se touchent le nez.
Ils se touchent le nez. Alors, du coup, vous allez à la rencontre de l'autre, vous cherchez l'hospitalité. Et au Qatar, vous êtes déçu, Julien Blangras. Parce que vous dites, c'est pas comme le Maroc. On parlera du Maroc avec Myriam Alaoui tout à l'heure, qui peut intervenir si elle veut d'ailleurs. Mais c'est vrai que, voilà, c'est compliqué pour vous. Vous n'arrivez pas à nouer contact avec les Qataris.
Alors, j'ai pas été confronté à de l'hostilité, mais à une certaine réserve, et ça m'a permis de comprendre des choses sur le pays. C'est un tout petit pays, le Qatar. Il y a 200 000 Qataris pour 2 millions d'habitants. Ça veut dire qu'ils sont ultra minoritaires chez eux. Et j'ai compris qu'il y avait une peur de la dilution culturelle qui poussait certaines personnes à pas trop fréquenter les étrangers. Donc ils ont des questionnements sur leur identité nationale, ce qui est assez intéressant parce que ça fait un miroir avec nos pays européens. Ouais. Et au final, quand on reste suffisamment longtemps qu'on peut aller sur la surface des choses, on trouve toujours des gens sympathiques qui veulent bien vous accueillir et
vous
partager leur expérience.
Vous partez en touriste. Vous dites ça, j'assume complètement. On l'avait vu d'ailleurs dans Touriste.
Voilà, j'avais fait un livre qui s'appelle Touriste.
Et dans
ma position de touriste. Alors, je suis à moitié touriste, à moitié reporter.
Enfin, vous êtes touriste, le touriste de base dans le dernier. Dans le désert, vous faites le touriste de base.
Voilà, je vais voir les lieux touristiques qui font partie de la réalité.
Les centres commerciaux, enfin, vous faites tout.
Voilà, bon, après, je me faufile quand même pour aller interviewer des gens et approfondir le cheminement touristique.
Moi, rien que de marcher dans sous le Sirocco, qui est donc un vent chaud à 45-50 degrés, on transpire plus, on s'évapore. On s'en va, c'est l'évanouissement vers le haut. Je veux dire, on n'existe plus. On a une espèce de souffle, de courant d'air, et c'est vraiment très inquiétant.
Mais c'est bien, c'est des pays où on ressent son corps.
C'est toujours climatisé, donc on passe de la chaleur extrême à l'extérieur.
Mais il y a un petit côté intéressant.
On fait du ski aussi,
ok, allez-y.
Dubaï,
hein.
Oui, il y a une station de ski à Dubaï qui est très connue dans un centre commercial. Allez-y, Emmanuel.
Non, mais je vous en prie, c'est fait pour ça, la rencontre. Allez-y, moi je suis tranquille. Donc
pourquoi vous m'avez invité? J'étais flatté.
Dans le désert, franchement, il y a un désert mythique. Et je suppose que le contact n'étant pas là, il y avait quand même un désir de connaître l'autre, avec en même temps une interdiction par les tabous religieux, les tabous capitalistiques aussi. Oui. Je veux dire, vous étiez un salaud de pauvre chez eux, je suppose.
Je ne sais pas s'ils me voyaient comme ça. Mais c'est vrai que d'habitude, on voyage souvent dans des pays, parce qu'en France, on a la chance d'être un pays assez riche. Et donc, la plupart du temps, on voyage dans des pays plus pauvres. Donc, ça change le rapport aux gens. Alors que là-bas, c'est vrai. Effectivement, j'étais le pauvre du Qatari.
Vous dites que vous êtes dans un hôtel
moyen. Ah oui, pour le coup, j'étais dans le
un
seul
peu
hôtel
miteux,
deux étoiles.
Deux étoiles, minable.
Pour comprendre un pays, je dis qu'il faut discuter avec un ministre et un pêcheur, loger dans un palace et aussi dans les bouibouis, les auberges de jeunesse.
Et il faut discuter avec les libraires, avec la France.
Toujours dans les librairies, dans tous les pays.
Thomas Hausser, qui connaît votre œuvre et qui a lu votre dernier roman, Dans le désert. Vous en pensez quoi, Thomas?
Alors, moi, Julien Blangras, je le résume comme ça. Je dirais que c'est de la découverte, c'est de l'humour, de la légèreté, mais aussi de l'espièglerie et puis une très haute dose d'autodérision. Ça, c'est sûr. Alors, le dernier, je l'ai trouvé assez drôle. En plus, Julien Blangras essaie d'aller en Arabie Saoudite. Il n'y a pas de visa, donc il se fait refouler. Voilà. Pareil pour Bahreïm, ça a l'air compliqué. Et puis, surtout, il essaye de chercher des Qataris, comme il disait tout à l'heure, au Qatar. Donc, voilà.
Ça vous a fait rire.
Ah oui, ça m'a fait rire. Et puis moi, ce que j'aime bien avec Julien Blangras, c'est que l'air de rien, comme ça, il trouve des petites vérités, l'air de rien, l'air de pas y toucher. Moi, c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup.
Déborah Damblon a lu les précédents. Vous adorez Julien Blangras depuis Touriste, je crois.
Ouais, depuis 2011 exactement, Emmanuel. Et grâce à vous, puisque c'est parce que vous l'aviez invité dans la librairie francophone. Eh bien, je me souviens de cette lecture, mais vraiment comme si c'était hier, et même d'une phrase en particulier, parce que je l'avais notée dans un carnet, et j'y pense souvent, et puis je la cite à mes proches, et je la ressors pour l'occasion. Donc la voici. « J'exige le respect pour mes rêves, aussi insensé puisse-t-il paraître, un fantasme, ça ne se discute pas. » Et puis, évidemment, il y a la profonde humanité qui se dégage toujours de vos livres, et j'adore ça.
Bien. Merci beaucoup.
Bon, ben voilà, c'est bien.
Ah bah oui, c'est très bien. Et un fantasme, ça ne se discute pas, donc on rejoint le thème du livre précédent.
Dick Annegarn, il y a une phrase de vous qui m'a intrigué lorsqu'on a fait des recherches sur votre vie et vos créations. Vous avez dit « C'est rare qu'aujourd'hui je chante des lieux que j'habite parce que les chansons peuvent vous faire perdre ce que vous aimez. »
Bah, Michel de Bruxelles, c'est la première et dernière fois que j'ai nommé un ami parce qu'il n'est plus ami. Il ne voulait pas être exposé, il a raison. On n'a pas exposé ses amis et du coup, bon ben, je chante souvent des êtres subtilisés, en tout cas que j'ai transcendés, que je donne d'autres noms. Ben, il y a George on my mind par exemple. J'ai voulu écrire George parce que j'avais un ami qui s'appelait George. George, George, c'est quand même fou cette folle idée que George est parmi nous. Donc si George on my mind, ben non, il fallait que j'en fasse Pierre parce que déjà rien que dire George, c'est une insulte à l'auteur d'une chanson sur l'état de Georgie d'ailleurs.
Pour mais dire je que, comprends pas le ben, par rapport à la question.
Si,
en fait.
C'est que on transcende un personnage, on joue avec les villes, on joue, je veux dire, les villes sont des personnages.
Mais pourquoi on perd des amis?
Xilinji, je vais vous dire une chose. Dans mon disque, Xilinji, c'est un incendie en Chine.
Oui.
Ben, c'est mon amant.
D'accord.
Qui était un peu asiatique, et il brûlait, et moi aussi, on était dragon de feu, lui était dragon d'eau. Hal Yong Chang, c'est une chanson où j'ai, donc aujourd'hui, je donne les clés de mon jeu d'arcade.
Oui.
C'est que les villes sont des hommes.
D'accord.
Les villes sont des personnages. Donc on.
Et vous l'avez perdu, votre amant asiatique?
Moins.
Je ne comprends rien, Dick.
Je l'ai moins perdu.
À cette histoire.
J'ai trouvé. Non, mais lui, il n'est pas vexé. Il n'est pas vexé parce que je n'aime pas son nom.
Ah, c'est ça.
C'est juste dire ça. C'est que de nommer son ami dans une chanson
ou
dans un roman, c'est indélicat.
Bien.
Donc il y a d'autres délicatesses qu'on peut. Ça s'appelle la poésie.
Exactement. Et vous avez un style très particulier, Dick Annegarn. Toujours en marge comme ça de ce qu'on appelle le showbiz. Vous avez même décidé en 1978 de quitter le showbiz comme ça, alors qu'on vous faisait faire la promotion d'un album dans une conférence de presse. Et là, vous avez dit « je me retire ». Tout ce monde-là ne me convient pas. Vous avez un côté plasticien, je trouve.
Pourquoi ?
Ben parce que vous êtes comme ça dans le surréalisme, sans compromis, sans chercher forcément l'esthétisme ou la mélodie.
Alors, Picasso, il avait ses périodes roses, sa période bleue.
Qui donc ?
Picasso.
Picasso, oui.
On lui demandait pas d'être rose pendant qu'il sentait bleu. Je veux dire, oui, mais enfin, nous, on nous oblige, Bruxelles, vous êtes gentil, mais on nous oblige de peindre le même tableau pendant 40 ans. Au moins, un plasticien, il a le droit de changer de période.
Oui. Hein ? Non, mais on vous a pas dit de rester à la chanson Bruxelles, que tout le monde connaît. Merci. Vous avez fait plein d'autres choses. N'empêche que dans le dernier album, vous la reprenez.
Et je la reprends.
Mais
d'une,
oui.
D'une façon un peu slovaque, oui.
Un peu slovaque. Donc non, un côté comme ça, plasticien, ça vous va pas?
Bah si, j'ai écrit sur Modigliani, j'ai écrit sur Van Gogh, je suis très sensible, je peux...
Non, je parlais dans la façon de faire, moi. Dans la façon d'être.
On construit, il y a du rythme quand même, je veux dire, dans un tableau, on peut mettre des arbres en rythme, mais il y a quand même des données, des contraintes, du moins, on n'a pas toujours une palette de couleurs.
Bien.
On est obligé de... peindre le même trait plusieurs fois pour faire du rythme.
Pendant que le téléphone de Maryse Wolinski sonne dans son sac à l'autre bout du studio, on va vous laisser aller chercher Maryse.
C'est un rappel.
Merci beaucoup Dick Annegarn, oui. Merci infiniment, merci oui. Julien Blangras.
Merci.
Votre dernier livre donc est paru au Diable Vauvert dans le désert, et puis cet album 12 villes de Dick Annegarn, 12 chansons, c'est évidemment chez tous les disquaires et sur les plateformes légales de téléchargement.
Oui, téléchargeant.
Bien, merci
c'est
à vous.
C'est pas gratuit. Hein.
Vite, vite, la chronique des libraires dans le rayon des bandes dessinées. On commence avec un coup de cœur en Suisse, Dominique Bressou.
Oui, moi j'ai eu un coup de cœur pour une BD qui s'appelle Ted, Troll de Coco, de Emily Gleason aux éditions Atrabil. C'est une BD qui intéressera tous ceux que l'autisme intrigue. Parce que l'auteur, Emily Gleason, est la sœur d'un homme atteint du syndrome d'Asperger. C'est impressionnant de justesse et c'est vraiment une très très belle BD.
Ted, drôle de coco d'Emily Gleason. C'est ça, Gleason ?
Gleason, oui.
Gleason. Merci beaucoup, Dominique. Josiane Nétourneau, un nouveau petit coup de gueule au Canada. Je sais que vous êtes émue à chaque fois.
Non, mais c'est parce que ça fait deux semaines de suite que vous allez m'entendre gueuler. J'ai peur que vous vous lassiez.
Non, vous étiez magnifique la semaine dernière, d'ailleurs. Écoutez, en balado-diffusion, si vous le souhaitez. Allez-y.
Alors, ma chronique, c'est donc ben cher les livres. Alors, parfois, j'ai l'impression d'arracher un bras et un rein à main nue à certains clients qui viennent payer au comptoir de librairie. Ce que j'aimerais dire, c'est que j'exclus les gens, évidemment, qui n'ont pas de budget livre, mais ceux qui en ont un pour se payer une bouteille de vin à 25 $ là, ben un livre à 25 $ c'est tout aussi savoureux et beaucoup moins éphémère.
Oui, boire ou lire, il faut choisir. Merci. Merci beaucoup, Josiane. Notre coup de gueule, Thomas Auxerre, en France.
Eh ben oui, alors pour une déception, pour un premier roman de Laurent Seyer, Les poteaux étaient carrés aux éditions Finitude, un éditeur que j'adore en plus. Mmh. Alors au début, tout était là, une belle histoire de foot, la finale Saint-Etienne à Bayern à Glasgow en 76, un peu de nostalgie et puis surtout une belle écriture. Mais alors voilà, Emmanuel, en fait, tout bon roman doit avoir une bonne fin. Et là, moi, ça m'a pas du tout plu.
Bah, déjà, ça commence mal, hein, le match de foot, là, non?
Ah, moi, j'aime bien. Non, moi, j'aime beaucoup. Et du coup, bah, c'est un peu tout fichu en l'air.
Bah, j'aime bien le foot, hein, mais non.
À voir aux auditeurs, hein.
Bah, j'ai pas entendu parler de ce livre. Les poteaux étaient carrés, c'est ça?
Ouais, les poteaux étaient carrés. D'accord, Laurent Seyer aux éditions Finitude.
Et il y a un beau footballeur en pleine action sur la couverture. Merci beaucoup, Thomas. On finit avec un coup de cœur, Déborah Damblon en Belgique.
Voilà, alors Emmanuel et tout le monde, imaginez Elvis Cadillac. Si, si, Elvis Cadillac, c'est le sosie de l'autre Elvis. Il arpente la province belge flanquée de sa petite chienne Priscilla sur le siège passager de sa voiture et il va pousser la chansonnette dans des maisons de retraite. Bon, d'accord, ce n'est pas très riant.
Non, ça commence
mal
aussi.
Mais le tout s'est agrémenté d'idiomes et de belgicisme. Et puis, comme toujours dans les romans de Nadine Monfils, on surfe sur la limite du trop, mais je trouve qu'on n'y tombe pas. Et ça, c'est de l'humour belge comme je l'aime. C'est de l'humour qui se prend pas au sérieux. Ouais. Et puis qui n'oublie pas de nous raconter une bonne histoire et qui nous remonte leur morale quand on en a besoin.
Et c'est le style de Nadine Monfils, très connu effectivement. Ice Cream et Châtiment aux éditions Pocket. Donc c'est un livre de poche. Merci beaucoup Déborah. À suivre, une jeune auditrice de 17 ans qui vous donnera son coup de cœur, elle aussi, coup de cœur littéraire. Littéraire ou livre, elle a choisi, on verra. Elle est sur notre plateau depuis le début de l'émission. Ça va Mathilda?
Oui.
Bon, sacré spectacle, hein, avec les monstres sacrés autour de vous. Et puis nous serons avec la Marocaine Meriem Alaoui. Bonjour Meriem.
Bonjour
vous
Emmanuel.
Vous publiez votre premier roman chez Gallimard et vous nous emmènerez à Casablanca. Avant cela, voici le nouveau titre de Charlotte Gainsbourg dans la librairie francophone.
Charlotte Gainsbourg avec les Oxalis sur votre radio francophone.
Ici, on ne vend que de petits objets de forme rectangulaire que l'on appelle livres. Alors je te prie de t'en aller.
Je connais bien les livres. J'en ai 186 à la maison.
Un extrait d'une histoire sans fin. Après une jeune lectrice suisse à Morges, voici pour notre séquence jeunesse une jeune lectrice française. Bonjour Mathilda.
Bonjour.
Tu es en terminale littéraire, tu as 17 ans et tu es passionnée par les livres depuis la maternelle.
Enfin, depuis que je sais à peu près déchiffrer les mots.
C'est vrai, à déchiffrer carrément. Bon, bah écoute, tu nous as contacté donc pour présenter ton coup de cœur et tu as choisi un roman graphique.
Oui, tout à fait. Donc j'ai choisi la bande dessinée de Quentin Zution, Chromatopsie, donc la contraction entre chromatique et autopsie. Il explore du coup dans son livre la sexualité. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il dissèque un peu nos émotions. Et à chacune d'entre elles, il associe une couleur. Et du coup, pour lui, chaque couleur a son histoire. Il nous parle de tout le monde. Il aborde toutes les tranches d'âge, tous les genres. Ça va du goûter d'anniversaire à la maison de retraite. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'il n'hésite pas à se mettre à nu et du coup à nous mettre à nu dans tous les sens du terme. Il parle bien évidemment d'amour, du coup, sous toutes ses formes.
D'identité aussi.
Oui, exactement. Ouais. Ça va des premiers émois et aux ruptures amoureuses. Et il explore aussi un peu cette sensation de manque qu'on peut parfois ressentir sans forcément l'expliquer. En tout cas, sur tout ça, il pose un regard très bienveillant. Et voilà, pour moi, c'était une lecture très émouvante, très belle. Ça me fait ressentir beaucoup d'émotions.
Ah ouais.
Et ce que j'ai adoré aussi, c'est que, c'est très intime et voilà, et ça plu, enfin son trait est magnifique et ça.
Ouais, un vrai coup de cœur quoi.
Oui.
Bon, magnifique dessin, Marie Zolinski, pardon.
C'est chez qui?
J'allais le dire.
Ah,
c'est
pardon,
aux éditions Lapin Édition, qui est une maison d'édition qui est distribuée partout. On a vérifié à travers toute la francophonie. Chromatopsie de Quentin Zution. Merci beaucoup Mathilda. Merci, bienvenue dans la librairie francophone. Si vous avez comme Mathilda entre 14 et 17 ans, on va dire, et que vous voulez intervenir pour votre coup de cœur, contactez-nous par mail, la librairie francophone at radiofrance.com ou sur ma page publique Facebook, Emmanuel Kérad. Merci Mathilda.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Rebonjour Myriam Alaoui.
Rebonjour.
La vérité sort de la bouche du cheval. La vérité sort de la bouche du cheval. Qu'est-ce que c'est que ce titre ?
Il est un peu tiré par les cheveux, je l'avoue. Dans le livre, il y a un personnage qui s'appelle Bouche de Cheval.
Oui.
Et donc,
surnommé par votre narratrice.
Tout à fait, surnommé par la narratrice
qui
s'appelle Jmiha, donc la narratrice, qui est prostituée au centre-ville de Casablanca.
Voilà.
Et donc voilà, un jour elle rencontre cette jeune femme qui est cinéaste et quand elle voit cette fille toute maigre avec des cheveux bouclés, une bouche pleine de dents, elle se dit, elle ressemble à une jument, voilà, elle l'appelle Bouche de Cheval.
Alors c'est votre premier roman, Myriam, vous êtes déjà dans la première liste pour le prix Goncourt, vous êtes née à Casablanca, vous vivez à New York et sur les trottoirs de Casablanca, il y a des prostituées. C'est un peu leur vie que vous racontez.
Oui, tout à fait. C'est une chronique, en fait, de la vie d'une prostituée de Casablanca. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai vécu dans le centre-ville de Casablanca que je décris, et j'ai vécu dans ce quartier où il y avait beaucoup de prostituées, beaucoup de bars, beaucoup de clients, beaucoup, forcément beaucoup d'ambiance, beaucoup de disputes, et
comment
puis
on
beaucoup
dit
de.
Bouche de cheval.
Des canagars.
Fumlaoud. Ah,
bouche de cheval en arabe.
Fumlaoud en arabe marocain, oui.
Alors, on suit comme ça une jeune prostituée qui n'a pas la langue dans sa poche. Elle raconte sa vie quotidienne dans une sorte de journal, et on constate qu'elle tient avant tout à sa fierté. C'est ça qui la tient, l'estime de soi, l'estime d'elle-même.
Oh, je sais pas, je dirais pas les choses comme ça. Elle est pas dans cette logique de questionnement et d'analyse en se disant est-ce que je m'estime, est-ce que je suis une pute, est-ce que voilà, elle est dans son dans le rôle dans lequel la vie l'a mise, mais elle est absolument pas dans la réflexion et certainement pas dans le misérabilisme ou l'apitoiement sur elle-même. Hein, donc elle se pose pas ce type de questions.
Oui, elle se bat.
Sans en avoir le sentiment, sans ressentir ce côté.
Bah quand même, nous on a ressenti qu'elle se battait.
Sans le revendiquer en tout cas, voilà.
Oui, sans le revendiquer.
Est-ce qu'elle est combative? Oui. Est-ce qu'elle se bat? Je ne pense pas.
D'accord. En tout cas, c'est un conte de fées qui commence mal. Parce qu'elle en a vécu des drames dans sa vie. Elle a subi des violences avec son compagnon, des violences sexuelles aussi, imposées par ce type, qui la prostitue auprès de ses copains.
Oui. Mais à vous entendre, j'ai un peu envie de pleurer parce que ça me semble très, très.
Bah, je raconte l'histoire.
Mais non, pas tout à fait. Pas tout à fait.
Non, on n'a pas terminé l'entretien.
En tout cas, moi, je la raconterai pas comme ça.
Ah, même, bah alors, dites-nous.
Même ce moment que vous décrivez, il est vrai assez difficile. En fait, elle est. Jumeirah est une jeune femme, donc à 15-16 ans, qui rencontre ce jeune homme dont elle tombe amoureuse. C'est un peu un petit voyou. Elle est folle amoureuse de lui. Elle a envie de se marier. Puis elle joue un peu à frotti-frotta avec lui. Ses parents craignent pour leur honneur et lui disent bon écoute il va falloir que tu te maries avec ce jeune homme parce que bon ça va pas durer comme ça. Et puis lui étant un petit voyou qui deal un peu de shit de temps en temps, un peu de hashish, qui vit de petits métiers et qui est aussi très paresseux, se dit bon il va falloir que je trouve un moyen d'arrondir mes fins de mois. Et puis d'un coup il se tourne et voit sa femme, il dit ah, je crois qu'elle pourrait faire l'affaire celle-là.
Alors raconté comme ça c'est moins triste donc.
Parce que c'est effectivement moins triste et en fait
non mais je sais pas.
Non mais c'est-à-dire que c'est
il la prostitue quand même avec ses copains,
oui,
c'est horrible.
Vous savez, c'est plus nuancé que ça, oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des situations où on a des personnages qui sont complètement sombres, complètement noirs.
Bon, vous savez quoi, on va laisser juger l'auditeur, on va se mettre dans l'ambiance de votre roman, on a une petite surprise pour vous, je sais pas si ça vous plaire du coup. Myriam Alaoui avec la lecture d'un extrait donc quand Jemia se rebelle et se bagarre avec Hamid qui l'a prêté à un copain donc, c'est Maryse Wolinski qui va lire sur la musique de Najat Ahatabou, chanteuse populaire marocaine, dont votre personnage est fan. On envoie la musique et je vous fais signe, Maryse.
On s'est entretués, mais nos coups étaient sourds. On se cognait d'un mur à l'autre. De temps en temps, on se retrouvait sur le lit pour reprendre notre souffle avant de nous lever à nouveau et de nous en mettre plein la figure. En serrant les dents, je lui demandais de me dire pourquoi il avait fait ça. Et de rage, je pleurais. Et plus les larmes coulaient, et plus je le détestais. Et je me détestais de me donner en spectacle devant lui. Je voyais ma mère qui me disait qu'il n'était pas un homme pour moi. Je pensais aux autres filles du quartier qui ne s'étaient pas battues pour lui et qui m'avaient laissé le prendre. Je pensais à mon insistance pour être avec lui. Au bout d'un moment, je n'avais qu'une idée en tête, qu'il s'introduise en moi. La grimace de dégoût qu'il a affichée quand je lui ai dit de le faire a achevé de me mettre hors de moi.
Un extrait de La vérité sort de la bouche du cheval de Myriam Alaoui, lu par Maryse Wolinski. Très belle lecture, Maryse. Félicitations. Myriam.
Merci, Maryse, pour cette très jolie lecture. J'aime beaucoup le choix de la musique aussi.
On va voir du côté des libraires ce qu'ils ont pensé du livre, Myriam Alaoui. Thomas Auxerre pour la France, c'est à vous de commencer.
Eh ben oui, alors écoutez, pour moi ça a été vraiment une des belles surprises de la rentrée littéraire. Votre livre m'a enthousiasmé. D'abord, vous savez raconter une histoire et puis votre héroïne est très touchante. Ce qui m'a plu et ce qui m'a fait lire votre roman d'une traite, vraiment une soirée, ce qui est rare, c'est la description de vos personnages, c'est l'envers de la carte postale et puis surtout c'est votre écriture réaliste, tranchante parfois, mais qui donne vraiment de l'épaisseur à l'ensemble, enfin vraiment super.
Bien, Josiane Nétourneau pour le Canada, êtes-vous d'accord?
Ah ben oui, ce roman, c'est une véritable rencontre avec un personnage, avec sa dégaine et sa franchise. Moi, elle m'a totalement séduite dès les premières pages. Admirable de résilience dans un univers assez sordide où elle a échoué et avec lequel elle compose du mieux qu'elle le peut, je crois. Animée par une plume d'une puissance posée, franche et colorée, dont la force est dans les détails, je trouve, Jemia, c'est une femme dont je me souviendrai très longtemps.
Sacré compliment.
Merci, merci.
Magnifique. On va voir avec Dominique Bressoux qui est en Suisse et elle confirme. Dominique.
Ah oui, moi je confirme. Ah, j'ai adoré ce livre. Bah. Le personnage principal est tellement plein de vie, c'est une vraie résistante aux autres et à sa propre autodestruction. C'est vraiment la vie envers et contre tous. Alors probablement, le happy end ne plaira pas à tous, mais là, pour les personnes dotées d'un zeste d'émerveillement et disposées à croire que le destin peut vous sourire, la fin du livre, ça procure un grand bonheur à qui la lit.
Écoutez, ça me fait plaisir parce qu'en fait, le Jemirah, c'est ce que j'essayais de vous dire, c'est qu'elle est pleine de vie, elle est pleine de vitalité. Et en fait, c'est, je crois que c'est ce qui fait qu'au final, elle ne peut qu'avoir une fin heureuse, parce qu'elle elle a tellement d'énergie.
On va pas raconter la fin.
Non, jamais.
Il m'a un peu agacé, votre livre, Myriam Alaoui, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, cette jeune femme, comme ça, qui se bat, qui, malgré ce que vous dites, moi je trouve ça très triste, la condition de ces femmes qui sont maltraitées, qui sont considérées comme des objets sexuels, qui ne sont considérées d'ailleurs même que par rapport à leur potentiel sexuel. Et dans ce pays, au Maroc, en tout cas dans votre histoire, personne ne dit rien. Il n'y a aucun homme qui se lève et qui dit tout ça, c'est pas possible, c'est inadmissible. Ce que vivent ces femmes-là, et ce qu'elles vivent d'ailleurs dans plein de pays au monde, y compris en Europe ou au Canada, c'est inacceptable. La violence qu'on fait aux femmes, la façon dont c'est fait dans votre livre, c'est inacceptable. Personne ne souligne, et vous-même, vous ne le soulignez pas.
Quand vous dites personne, vous parlez des personnages dans le roman ou des gens
Oui, puis d'une façon générale, par extension.
Déjà, ce qu'il faut savoir par rapport à l'histoire, c'est qu'elle est écrite à la première personne. Donc on est vraiment dans la tête de Jmira. Oui. Donc si Jmira n'a pas soulevé ça, c'est que pour elle, c'est juste tout à fait normal. C'est comme ça que c'est. Donc
c'est ça qui me gêne, moi. C'est
la vie. Quand on vit dans cette situation, on n'est pas forcément dans le questionnement qui est plus du registre de l'intellectuel. Hein. On est dans la vraie vie. Ouais. Faut manger tous les jours. Il faut avoir des clients tous les jours. Donc, on se pose pas nécessairement la question de est-ce que l'homme, ça c'est le travail des intellectuels, pas celui du maire.
Et votre travail alors?
Écoutez, moi je suis un heureux vecteur. Ouais. J'ai eu une inspiration que je n'ai même pas cherchée, qui m'a traversée, et je suis là et j'en suis ravie.
Bon, il y a de belles phrases, en tout cas de jolis passages. On va terminer avec un autre extrait que je vais lire. Peut-être qu'il y a des choses qui arrivent pour rien dans la vie. Et peut-être aussi que tout ce qui se passe, c'est déjà prévu, planifié, tracé, tout. Comme dans un film. C'est ce qui se passe pour elle. Tout est tracé, Myriam Alaoui, le bon comme le mauvais.
Oh non. Je pense au contraire. Moi, je suis quelqu'un qui est absolument pas dans le. J'ai pas du tout le sentiment que le futur est quelque chose qu'on peut planifier ni sur lequel on peut avoir une influence. Je suis plutôt du genre à me laisser porter par ce qui vient et voilà. Parfois, ça donne d'heureux résultats.
Et vous orientez des choses alors.
Plus ou moins.
Quand on peut.
J'ai plus la prétention d'avoir une influence, en tout cas absolue, sur ce qui m'arrive.
Merci beaucoup, Myriam Alaoui. Votre livre, La vérité sort de la bouche du cheval, est paru aux éditions Gallimard. C'est votre premier roman et vous connaissez déjà la sélection pour le prix Goncourt. J'espère que vous irez loin. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici l'artiste français O et un extrait de À Terre.
Disparaître, mais si tu patientes, je prendrai racine. L'arbre dans la ville, il est plus solide que le building qui lui fait face. Je suis l'arbre fleur, je veux ton bonheur, mais je sens que je.
le chanteur O avec Ater, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Merci Plantu.
Merci beaucoup.
À très bientôt Maryse Wolinski, Dick Hanegarn, Julien Blanc-Gras, Mary Malawi, tout le monde.
Merci.
À très bientôt. À la rédaction Étienne Bertin avec Fabrice Lègle et Tristan Gratalon, Jean-Philippe Véré avec Christophe Magère en France, Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, nous serons avec Jane Birkin, Serge Joncourt, le dessinateur Christophe Simon et Jean Von Hamme. Bonne semaine, bon week-end à tous.